à la salle. Quelle salle on est ?
Rue de Palestine, au 8 rue de Palestine, la salle paroissiale.
Alors, c'est Saint-Jean-Baptiste de Belleville.
Bravo.
Voilà. Qui accueille une réunion sur qui a pour thème les arrestations des sans-papiers. Voilà. Donc le thème de la réunion, c'est que faire lorsqu'on est arrêté. Non, ça c'est la brochure. Mais dans la réunion, c'est en fait l'objectif, c'est bien sûr de permettre un échange autour des témoignages de sans-papiers arrêtés ces derniers temps. Histoire de préparer les autres à des situations, à la situation douloureuse de l'arrestation. Savoir comment réagir, etc. Voilà, c'était la fin de l'essai. J'ai un autre.
Alors voilà, on va retrouver donc, on va se retrouver dans la salle paroissiale. Et oui, une salle paroissiale, il faut. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour soutenir les sans-papiers des fois ? On va donc se retrouver dans la salle avec quelques mots d'introduction de la part du collectif des sans-papiers du 19e arrondissement.
Trois points principaux ont été arrêtés par le collectif du 19e et tous ses partenaires. Points autour desquels nous allons essayer de discuter ce soir. Ces points sont les suivants. D'abord, que faire en cas d'arrestation ? Ça, c'est un point qui nous paraît être assez important. Parce que là, nous avons, de l'expérience, nous avons constaté que beaucoup de gens, une fois arrêtés, paniquent, ils ne savent pas quelle est la plus petite parcelle qu'ils ont pour se défendre. Ça, nous avons pensé que c'est intéressant. Que faire pendant, en cas d'arrestation ? Quand on est dans un centre de rétention, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça aussi, nous avons pensé que c'est un point important. Que des spécialistes qui sont là vont essayer de vous donner des informations assez importantes par rapport à ce point. Le dernier point, c'est en cas d'expulsion. Quelque chose que nous ne souhaitons pas à nos amis sans papier, mais quand même des choses qui arrivent. Hein, qui arrivent. Donc en cas d'expulsion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc voilà trois points autour desquels ce soir nous allons essayer de discuter. D'abord, nous demanderons à certains sans-papiers qui ont été victimes de ces situations de se présenter pour faire des témoignages. Témoignages que j'espère vont être assez importants pour tous ceux qui n'ont pas vécu ce genre de situation. Il y aura aussi des spécialistes qu'on a invités et c'est l'occasion pour moi de vous les présenter. D'abord, il y a le justice qui est représenté en la personne de Jean-Pierre Allot, qui sera là. Jean-Pierre Allot, si vous pouvez vous représenter. Voilà, c'est Jean-Pierre Allot.
Et Patrice aussi.
Et Patrice, voilà, d'accord. Je n'avais pas l'information. La CIMAT aussi est représentée en la personne de Mademoiselle Matineau, qui est là, juste à côté. Donc, ces spécialistes, je ne sais pas si vous accepteront que j'utilise ce terme. En tout cas, je l'utiliserai. Ces spécialistes vont tenter de vous donner des explications concrètes par rapport à certaines situations auxquelles sont confrontés les sans-papiers. Donc voilà comment vont se dérouler les débats. Nous vous demandons aussi de poser des questions, mais aussi un peu de discipline, parce que tant qu'il n'y a pas de discipline, on ne peut pas avoir un débat serein. Hein, on peut pas, les gens ne peuvent pas rentrer avec des informations assez claires. Donc il faut écouter, celui qui veut poser des questions, il lève la main, on marque son nom et puis voilà quoi, il aura la parole.
Alors voilà, on va quelques mots d'introduction. On va écouter tout de suite et puis on en entendra plusieurs dans le cours de cette émission. Un premier témoignage d'un des sans-papiers, d'un des membres du collectif du 19e arrondissement qui était présent à cette réunion.
Ça fait 12 ans que je vivais en France et j'ai eu pas mal de difficultés. Et par rapport aux difficultés que j'ai eues, je ne souhaite pas que, en tant que nous, les sans-papiers, quelqu'un d'autre vit la même chose que moi, quoi. Parce que moi, j'ai vu des trucs, c'est trop dépassé parfois, quoi. Et que j'arrive pas à tout raconter, bon, parce que c'est il y a un peu longtemps, donc j'ai oublié un peu des choses, quoi, que je me rappelle pas, et puis. C'est ça, quoi. Mais je peux intervenir sur les dernières arrestations que j'ai eues en 2002 et que ça a été mal passé et que souvent, vu que les sans-papiers, même si on est beaucoup ancienneté dans ces pays et qu'on n'a pas de papiers, donc souvent les autorités ne comptent pas ça, quoi. Ils comptent absolument des papiers et puis rien que l'autre, quoi. Parce que moi, la dernière fois, en 2002, c'est le problème, c'est arrivé au niveau des, de cette histoire de téléphone, quoi. Parce que là, j'ai trouvé un studio à Paris et j'étais avec ma femme, donc qu'elle était enceinte. Donc moi, je travaille dans les restaurations. Et souvent, je n'ai pas le temps de rester à la maison, quoi, pendant. Parce qu'on commence le matin à 9h30 jusqu'à 15h. Et 15h, on est en coupure. Après, on recommence à 18h30 jusqu'à 23h. Donc, ma femme, elle est toute seule à la maison. Et il n'y a pas de téléphone que je puisse la rejoindre. Donc, en fonction de ça, j'étais parti à la France Télécom de faire une demande pour que je puisse parfois téléphoner à, pour voir comment elle va, quoi, tu vois. Donc, j'étais à la France Télécom, on m'a demandé pièces d'identité et les fiches de paye, et que je lui ai tout donné, et les bails. Mais en tout ça, les gars, ils profitent, ils rentrent dans la chambre, ils ont téléphoné à la police comme pour vérifier l'identification de la personne, quoi, tu vois. Et donc, avec ça, ils ont trouvé que la carte était une fausse, et directement, ils ont appelé la police, et la police est arrivée, quoi. Donc, là, j'ai fait 24 heures de garde à vue. Dans les 11e. Après, on m'a amené à Cité. Là-bas aussi, j'ai fait 24 heures. Après, on m'a amené au centre de rétention de Vincennes. Et du coup, là, mon frère Sissoko, avec Edramé Moussa, ils m'ont ramené tous mes documents, 92 jusqu'en 2002. Et que je travaille, je paye des impôts toute l'année. Mais ça n'a rien donné, quoi, vraiment. Ça n'a rien donné. Arrivé devant les juges, j'ai expliqué, bon, dans ce cas-là, monsieur le juge, vous voulez m'expliquer qu'est-ce que ma femme et mon enfant qui va naître, qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire ici, parce que vu que moi, je n'ai plus droit sur l'État, sur les pays, et que ma famille, ils sont là, donc je me demande qu'est-ce que vous allez faire pour eux, quoi. Bah, les juges m'avaient dit que, bon, de toute façon, une fois que la décision est prise, donc j'allais retourner avec ma famille, avec ma femme au pays. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, donc je lui pose la question, ok, donc dans ce cas-là, en 92 jusqu'à maintenant, là je travaille, je paye des cotisations, des allocations familiales, de la sécurité sociale, de la retraite, mais que vous voulez faire dans ce cas-là? Donc vous voulez me faire perdre tout ça, là, tout ce droit que je cotise? Donc, les juges m'avaient dit, bon, ça, de toute façon, lui, il ne peut pas me répondre à ce point-là, parce qu'il compte uniquement des papiers. Donc, vu que je n'ai pas de papiers, donc je ne suis pas, j'ai pas autorisé de rester sur le territoire, quel que soit que je travaille ou pas. Bon, parce que je travaille avec une fausse carte, de toute façon, donc il ne compte pas sur là-dessus, quoi. Bon, après, je lui pose la question, ok, donc je travaille avec une fausse carte. Donc, dans ce cas-là, pourquoi les impôts, ils m'ont demandé de payer à certaines sommes de l'argent que, bon, je n'ai pas le droit de payer. Bon, ils m'avaient dit que eux, ça n'a rien à voir avec eux, parce qu'eux, ils sont des ministres de l'Intérieur, et les services des impôts, c'est des ministres des Finances. Donc, c'est pas même branche. Donc, ils ne peuvent pas me répondre à ce point-là aussi. Donc, ma situation, c'était comme ça. Donc, ils ont tout fait que je puisse rentrer chez moi, quoi. Mais grâce à M. Sissoko, donc ils sont allés à l'ambassade de Mali d'expliquer mon problème, donc il faut qu'ils fassent attention, qu'ils ne donnent pas laisser passer, quoi. Donc grâce à ça, on m'a livré, quoi. Donc voilà, quoi. Donc tout ce que j'ai dit, bon, il y a des moments, je me rappelle de choses, il y a des moments, je m'oublie, mais à nous, les sans-papiers, il faut toujours faire attention, quel que soit le problème, si on t'arrête. Parfois, on dit la vérité, mais parfois, il ne faut jamais dire la vérité, parce que si on te demande, parfois, ils demandent directement, quand on t'arrête, les commissariats, ils demandent directement les passeports. Là, je n'autorise personne de donner des passeports, quoi, parce que le passeport, si tu as le passeport, Ils n'ont même pas besoin d'aller à la consulte pour laisser passer. Hein. Directement à l'avion, direct chez toi. Hein. Là, personne ne donne le passeport. Quoi. C'est ce que j'ai dit. Puis voilà quoi. Donc au fur et à mesure, comme le débat continue, bon, si on se rappelle le truc aussi, on rajoute. Bon, bah, c'est ça. Merci.
Voilà un témoignage enregistré samedi 20 novembre. On a à nos côtés Michel qui est avocate et qui fait partie de la CIMADE. Alors avec toi, on va essayer de voir un petit peu où on en est du droit qui régit le séjour des étrangers en France, de ce qui se passe dans les centres de rétention. Mais peut-être pour commencer, juste deux mots pour nous dire qu'est-ce que la CIMADE?
Donc bonjour, la CIMADE en fait est une association qui intervient depuis à peu près une vingtaine d'années au sein des centres de rétention. Donc elle apporte en fait une aide et des conseils juridiques aux retenus, c'est-à-dire les personnes qui sont en fait mises dans les centres de rétention en vue de leur reconduite à la frontière. Donc en fait, on reçoit les retenus et on fait avec eux bien sûr un diagnostic juridique de leur situation. Donc la mission de la CIMADE est essentiellement juridique. Et ça ne se limite pas seulement au centre de rétention. La CIMADE intervient aussi dans le droit en matière d'asile et en matière de régularisation. C'est le centre qui, à Paris, se situe à la rue des Batignolles.
Alors, on va profiter du fait que tu connaisses particulièrement bien le droit qui régit le séjour des étrangers pour faire un petit peu le point, parce qu'il y a eu une succession de lois depuis 97 avec la loi Chevènement et qui ont été modifiées. Il y a eu des circulaires, plein de choses comme ça avec les gouvernements de droite et de centre-droit successifs. Est-ce que où on en est aujourd'hui, par quoi est régi et par quelles lois sont régis aujourd'hui?
Donc, il faut toujours se souvenir que l'entrée et le séjour des étrangers en France est régi essentiellement par l'ordonnance de 1945. Donc, il y a deux ordonnances le 2 novembre 1945. Il y en a une qui régit les mineurs et il y en a une autre pour le droit des étrangers. Cette ordonnance a été nombreuses fois modifiée. La dernière modification en droite, c'est la fameuse loi dite Sarkozy qui a été votée il y a un an, la loi du 26 novembre 2003. Excusez-moi. Donc, effectivement, ce droit, c'est beaucoup modifié, c'est adapté aux nouvelles populations. Et donc, on peut dire que cette loi Sarkozy a malheureusement pas mal limité, pas mal modifié le droit des étrangers et limité beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'accès. C'est vrai que cette loi, on en a beaucoup parlé l'année dernière, mais plus sur le fait qu'elle abolissait, entre guillemets, la double peine. Mais on n'a pas beaucoup, les journaux n'ont pas beaucoup parlé justement de cette taxe, de cette entrée, de ce séjour des étrangers, des mesures de reconduite, des modifications que ça avait eu, qui avaient été mises en place en matière de reconduite, de nationalité et de régularisation des étrangers.
Mais quelle était sa spécificité par rapport aux précédentes lois dont parlait Pierre? Est-ce qu'il y a eu une philosophie un peu particulière par rapport ou c'était un texte qui était complètement dans la continuité des lois précédentes?
Non, enfin, moi je pense, mais là ça n'engage que moi et pas la CIMADE, qu'en matière de droit des étrangers, on a eu un premier changement en 93 qui était les fameuses lois dites Pasqua, et on a cette loi-là. Cette loi, je ne dirais pas qu'elle réduit à peau de chagrin, mais elle limite beaucoup, beaucoup de choses. Elle est devenue très restrictive, elle a encore plus pénalisé il a toujours été su que l'étranger était considéré comme un délinquant. Le fait d'être sans papier en France est un délit, ça a toujours été reconnu. Mais là vraiment, je pense que ça c'est vraiment, enfin, la situation de l'étranger s'est vraiment durcie avec cette loi. Donc c'est vraiment une loi beaucoup plus dure que les lois précédentes.
Alors derrière cette double peine qui était abolie entre guillemets, qui était aménagée par cette loi, peut-être d'ailleurs
qu'est-ce qu'il en est? Il en est que la double peine, contrairement à ce qui a été dit, n'a pas été abolie. La double peine est abolie selon certaines conditions qui sont, pour résumer, être arrivé en France avant l'âge de 13 ans, être en France depuis plus de 20 ans, avoir des enfants français ou une femme française, c'est-à-dire de solides attaches envers la France, et ne pas avoir commis des actes qui sont contraires à ce fameux ordre public dont on parle souvent en droit. Mais même pour tout ça, même avec toutes ces clauses qui sont dites, il y a aussi les faits. Donc une personne, par exemple, qui est entrée en France avant l'âge de 13 ans, il faut qu'elle démontre qu'elle est entrée en France avant l'âge de 13 ans par les certificats de scolarité. Il faut qu'elle démontre qu'elle est en France depuis plus de 20 ans. Il faut qu'elle démontre qu'elle est mariée avec une Française et qu'elle vit toujours avec cette Française. Enfin, il y a plein de choses à démontrer. Donc il y a vraiment la théorie et la pratique.
D'autant que, enfin, à lire Le Monde récemment, apparemment la mise en application des directives qui, pour faire appliquer cette loi ne passe pas. Et, enfin, il y a énormément de difficultés apparemment sur le terrain à faire passer.
Je veux dire, des personnes qui sont protégées de manière absolue contre l'éloignement, contre cette double peine, j'en vois passer beaucoup en centre de rétention. Et maintenant, démontrer au ministère de l'Intérieur qui a pris certaines mesures ou à la préfecture que ces personnes ne doivent pas être reconduites, c'est vraiment un parcours du combattant. Parce que comment démontrer qu'un enfant, une personne qui a fait un vol de voiture à l'âge de peut-être de 18 ans, mais qui entre en France à l'âge de 8 ans, comment déjà lui expliquer à cette personne qu'on la reconduise, lui qui a entendu que la double peine était abolie. Donc il faut lui dire, bon voilà, tu es en rétention, tu es enfermé, mais il faut que tu récupères tous tes certificats de scolarité depuis 10 ans. Il faut que tu me démontres que tu aurais pu avoir une carte de séjour. Il faut que tu me démontres que tu aies des attaches en France. La personne, qu'est-ce qu'elle répond ? Je suis enfermé, je fais comment ? Et quand on répond ça au ministère, c'est à peine si on ne nous dit pas, ben, vous vous débrouillez, la loi c'est ça, il faut qu'il nous le démontre. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, mais dans la pratique, on a beaucoup d'embûches, quoi.
Alors, autre élément de la loi Sarkozy, si je me trompe pas, c'était les modifications des délais pour être mis en centre de rétention. Jusque-là, c'était limité à un certain nombre de jours.
12 jours.
12 jours. Et ça a été modifié.
Ça a été modifié et très modifié. Et là, en rétention, on le sent surtout d'un point de vue psychologique. Au départ, la rétention durait maximum 12 jours. Maintenant, la rétention dure maximum 32 jours. Donc la procédure en plus est très complexe. C'est une procédure qui se divise entre deux juges, car souvent les personnes ne le savent pas et ne le comprennent pas qu'en France, il y a deux ordres de justice juridictionnels. Il y a l'ordre administratif et l'ordre judiciaire, quoi, l'ordre de droit privé. Donc la procédure administrative, parce qu'à la base, la mesure de reconduite est une procédure essentiellement administrative, prise par des autorités administratives. Et en fait, la personne qui se retrouve en rétention est confrontée à deux juges. Donc, il ne comprend pas exactement tout ce qui lui arrive. Donc, d'une part, effectivement, il a cette mesure qui est prise contre lui par le préfet. Maintenant, devant qui il doit l'attaquer ? Donc, il doit attaquer cette mesure prise par le préfet devant le juge administratif. Donc, c'est devant les tribunaux administratifs compétents, qui sont généralement du ressort du préfet qui a pris la mesure.
Alors, les tribunaux, c'est ce qu'on appelle la chambre, le 35 bis.
Non, justement.
C'est pas ça. D'accord.
Justement, à partir de là, parce que là, c'est la mesure qui le place en rétention. Maintenant, ce placement en rétention, il est à rappeler que depuis, c'est là qu'on devient vraiment, ça devient un peu compliqué, que depuis 2000, et la fameuse loi, je me souviens plus qui avait la loi, enfin, depuis 2000, on a institué un juge de la liberté de la détention.
C'est Vaillant.
Oui, c'était Vaillant. La liberté de la défense. Non, Vaillant était ministre de l'Intérieur. Donc, ça a été sa ministre de la Justice. C'est le fameux. C'est le JLD, l'institution du JLD.
C'était
Guigou. Donc, il y a le juge de la liberté de la détention. Et c'est là la fameuse audience du 35 bis. Donc, là, effectivement, une fois qu'il arrive en rétention, la personne arrive en rétention, elle va passer devant ce juge qui, en fait, décide si oui ou non on continue cette privation de liberté, parce que la rétention est quand même une privation de liberté. Donc c'est à elle, c'est ce juge-là qui doit décider si oui ou non cette personne est maintenue en rétention. Ce maintien en rétention doit être prononcé par le juge dans les 48 heures du prononcé de la mesure, et ce maintien en rétention dure 15 jours. Donc comme je l'explique souvent aux retenus, pendant ces 15 jours, c'est le temps en fait qui est donné à l'administration pour préparer sa reconduite à la frontière. Donc il sera présenté aux ambassades. Et il sera présenté aux diverses autorités consulaires quand il n'a pas de passeport, ou en fait on va prendre la réservation et un vol, comme ça se fait souvent. Si au bout de 15 jours on n'a pas réussi à déterminer son identité, sa nationalité, le juge peut autoriser la rétention encore d'une durée de 15 jours. C'est ça qui amène en fait ces fameux 32 jours, qui sont très durs psychologiquement pour beaucoup de retenus, parce que pour eux ils assimilent ça beaucoup à la prison.
Alors voilà, justement, ce que j'allais te demander, les centres de rétention, c'est assimilable à quoi ? Est-ce que c'est des prisons ? Est-ce qu'on a des droits quand on est dans un centre de rétention ? Qu'est-ce qui distingue
c'est quoi généralement, c'est des morceaux d'hôtels qu'on a isolés parfois. Qu'est-ce qui les distingue d'une prison?
Ben, c'est pas des maisons d'arrêt. Ça ne se situe pas dans les maisons d'arrêt dans le sens strict du terme. Ça ne se situe pas dans des centrales. Ça ne se situe pas dans des lieux en fait de détention. C'est une rétention. Ça distingue bien l'aspect qui n'est pas pénal de la personne. C'est vrai que ça devient un peu du n'importe quoi ce que je dis, parce que tout à l'heure je vous ai dit que le délinquant que la personne qui est sans papier est un délinquant, mais en même temps je vous dis que quand il est placé en centre de rétention, c'est pas un délinquant puisque il est pas en prison. Donc qu'est-ce que c'est au final ces centres de rétention? Bah déjà, comme je vous ai dit, le retenu n'est pas un prisonnier. C'est vraiment une personne qu'on veut reconduire à la frontière. Donc, qu'est-ce qui peut distinguer? Ils ont droit à leurs lacets, par exemple, à des ceintures dans certains centres de rétention. En fait, ça dépend des centres, mais déjà, c'est ce qu'on appelle des lieux qui sont hors, qui ne sont pas de la compétence de l'administration pénitentiaire. Voilà la définition du centre de rétention. Donc, sur Paris, il y en a un au palais de justice, il y en a à l'école de police à Vincennes, il y a le local de rétention à Choisy, vous en avez un qui se situe près de l'aéroport de Roissy, au Mesnil-Amelot, qui sont en fait qui sont des places où les personnes sont retenues. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle les locaux de rétention, qui peuvent être décidés par les autorités compétentes, les autorités administratives, qui se situent soit dans des commissariats. Dans n'importe quel endroit, on peut décider d'implanter un local de rétention.
Et donc, est-ce qu'ils ont des droits, malgré tout, en dehors d'avoir leur larcet et tout ça?
Oui, ils ont des droits, ils peuvent exercer leurs droits, c'est-à-dire ils ont droit d'avoir accès à un médecin, droit d'avoir accès à leur avocat, ils ont certains droits de visite.
Téléphone, par exemple, non?
Ils ont des cabines téléphoniques, donc ils peuvent téléphoner et se faire appeler. Donc, effectivement, ça distingue d'une maison d'arrêt.
Et au niveau des conditions dans les centres de rétention, qu'est-ce qu'il en est?
Alors là, en fait, tout dépend du centre de rétention. Là, je préfère pas donner de jugement, mais c'est vrai qu'il y a des centres de rétention, pour moi, qui sont assimilables, voire pires que certaines maisons d'arrêt. Puisqu'il y a des centres de rétention, par exemple, pas de stylo, fumer à certaines heures...
On parle beaucoup de surpeuplement.
Surpopulation ?
Oui, surpopulation.
Il y a une surpopulation carcérale dans les centres de rétention. Je ne pense pas qu'il y ait une surpopulation. Il y a beaucoup de turnover. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrées de sortie. Mais c'est clair qu'ils sont super nombreux. Ils sont très, très nombreux. Et comme la catégorie de personnes n'est pas forcément la même, c'est-à-dire que dans un centre de rétention, on peut avoir la personne qui est en France depuis 20 ans, qui a fait toute sa vie en France, qui se retrouve là suite à un contrôle de routine. On a les sortants de prison, on a les toxicos. Enfin, je veux dire, c'est vraiment...
Parce qu'au terme de la loi, si je me souviens bien, on parle de prestations hôtelières qui devraient être fournies aux gens qui sont en centre de rétention. Alors,
moi, ils mangent bien, c'est ça.
Mais oui, une prestation hôtelière, ça veut dire ce que ça veut dire sur les conditions où on va dormir, où on va manger, effectivement. Les divers rapports que j'ai eu l'occasion de consulter, entre autres ceux-ci réalisés par la CIMAD, donnent pas du tout ce type d'appréciation sur ce que sont les centres de rétention.
De mon point de vue, je ne vois pas où est la prestation hôtelière. De mon point de vue, on leur donne à manger, ils ont leur plateau repas, ils dorment. C'est pas des lits, c'est des lits à deux étages pour le peu que j'ai vu. Les couvertures, c'est pas des couettes avec plumes d'oie. Non, les conditions, quand on entre dans un centre de rétention, je ne vois pas la différence avec les maisons d'arrêt.
Oui, la semaine dernière, on parlait des violences faites aux femmes. Je voulais savoir s'il y avait plus de femmes dans les centres de rétention ou plus d'hommes.
Comme en maison d'arrêt, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc ça, c'est un... Mais déjà aussi, il faut voir qu'il y a... Par exemple, sur Paris, il n'y a qu'un centre de rétention qui accueille les femmes, qui est celui qui est situé au Paris, au palais de justice, au dépôt. Vincennes n'accueille pas de femmes. Les violences... Et pareil, ça, on revient un peu pour sortir de la rétention à la vie de tous les jours. Je veux dire, on se fait beaucoup plus contrôler dans la rue quand on est un homme qu'une femme. Donc déjà, c'est pareil pour la prison. Donc les femmes, il y en a pas mal. Et les femmes ont souvent le même profil, malheureusement. C'est-à-dire, on revient à cette fameuse loi Sarkozy quand je disais qu'elle a pas mal... rétréci pas mal de choses. C'est que la plupart des femmes qu'on trouve en centre de rétention sont des prostituées. Donc elles sont là pour racolage. Donc maintenant, de la violence faite aux femmes, je ne me prononcerai pas dessus.
Oui, bah, toujours, toujours sur les centres de rétention, quel pouvoir vous avez, vous, quand vous êtes là-bas? Qu'est-ce que, une fois qu'un sans-papier a été interpellé, qu'il est dans un centre de rétention, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Quels sont les leviers qui restent à activer?
Nous, on agit, on ne peut agir que dans le cadre de la loi. Donc, comme je vous ai dit, on a le retenu arrive, on essaye de le voir, qu'il le demande, généralement quand il le demande. Et à partir de là, on applique la loi lorsqu'elle est applicable. Donc, effectivement, on fait un peu de droit pénal, c'est-à-dire qu'effectivement, on examine les conditions d'interpellation. Une personne qui a été interpellée en train de marcher dans la rue, et puis il s'avère que le policier a écrit qu'il est en train de taguer, et puis. Enfin, je veux dire, par exemple, le policier donne une infraction et c'est pas la vraie infraction. On peut faire sauter le retenu, peut être libéré par cela. Il y a aussi le fait que, on parlait tout à l'heure des droits qu'ils peuvent exercer. Un retenu qui ne parle pas la langue française ou qui n'est pas la langue française, il doit avoir un interprète. Donc, il arrive souvent, bien sûr, que les PV, il n'y ait pas d'interprète, tandis que la personne qu'on a en face de nous ne parle absolument pas le français, ne comprend absolument pas le français. Donc. Effectivement, la CIMADE, nous, on applique vraiment la loi et on essaye de les faire libérer, de faire respecter leurs droits. Je veux dire, ils ont le droit à un interprète, ils ont le droit de comprendre ce qui leur arrive. Si ça n'a pas été fait, on le soulève afin que ces personnes soient libérées. Un exemple classique, la loi dit qu'une personne qui est en France depuis 10 ans et qui peut le démontrer ne peut pas être retenue et ne peut pas être ne doit pas être en rétention. Si on a une personne en face de nous qui est en France depuis 10 ans, qui a toutes ses attaches en France, qui arrive à nous le démontrer, on le fait sortir. Parce que la police arrête un peu, quelquefois, tout et n'importe quoi. Et malheureusement, on doit faire le tri une fois qu'on est dans le centre.
Mais alors, c'est le levier qui vous reste à activer. Enfin, le droit, une fois qu'on l'applique... C'est quoi? Il y a beaucoup de situations de gens qui sont dans des centres de rétention qui malgré tous les pouvoirs que leur donne la loi, ont été interpellés de manière abusive.
Oui. Il y a des périodes où, j'ai pas trop envie de me faire. Il y a des périodes où des personnes arrivent et c'est vrai que ces personnes-là, on comprend pas ce qu'elles font là. Donc on fait notre boulot, on essaie de faire notre boulot. Mais c'est vrai que de temps en temps, on comprend la police dans le sens où, malheureusement, on ne peut pas croire tout le monde sur parole. Donc, une personne qui dit qu'elle est en France depuis 10 ans, qui n'arrive pas à le démontrer.
Ah, ça, c'est un truc que j'arrive jamais moi, à croire la police.
Oui, pas le seul.
Enfin, prendre du repos, j'ai dégoté le soleil. S'il se couche sur une bière, c'est la mer. S'il n'est pas fou, c'est une merveille qui met le cafard en état de guerre. Sûr, c'est pas du pôle Nord, son sourire brûlant. Son voyage n'est que d'ici. On le croit d'ailleurs, c'est marrant. Lui qui pensait n'avoir qu'une vie. Imagine, si Magide s'en va. Et nos rêves, qui donc les boira? On a tout regardé, mon grand frère sans papier. On a rêvé tous les mélanges. Je n'aurais jamais parié qu'un jour on te dirait que tu déranges. Voici l'heure, ma grande gueule, de faire taire ton honneur. Toi qui portais la tête haute, t'apprendras tes chaussures par cœur. Les flics du métro savent ta faute. Imagine, si Magide s'en va, et nos rêves, qui dans les boira. Pareil qu'il y en a qui veulent charteriser un Abdou, qu'on veut virer notre prince arabe, qu'on orphelinise donc sa cour, qu'on le perde dans un panier de crabes, et nos larmes amères couleront le pays. On n'a pas le cœur en map monde, qui peut prétendre trier nos vies et affûte les armes de la fronde, imagine. Imagine si Magide s'en va. Et nos rêves, qui dans les boira? Imagine si Magide s'en va.
Voilà, on va revenir à ce qui a fait l'objet de l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'on va passer un témoignage d'un sans-papiers. C'était donc enregistré le 20 octobre dans le 20e rue de Palestine.
Donc je vais vous parler de l'histoire des sans-papiers. Donc les sans-papiers, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, c'est pas aujourd'hui aussi ça va terminer. Moi, je me rappelle bien l'année 99 où j'étais arrêté avec une fausse carte. J'ai travaillé sur la ligne 14, hein, Bibliothèque nationale François Mitterrand. J'étais arrêté un vendredi, en garde à vue. Donc, j'ai resté samedi. Dimanche, il m'avait demandé de policer. Et Moussé, est-ce que si on te laissait, tu vas travailler? Il dit, si vous allez à Bibliothèque nationale François Mitterrand, vous m'avez trouvé là-bas sur la ligne 14. J'ai resté 2 ans sur place, je travaillais sur la ligne 14. Donc l'histoire des sans-papiers, il y a les sans-papiers qui sont des métiers ici, que le gouvernement ne voulait pas reconnaître ces métiers. Moi, j'ai resté 2 ans sur place sur la ligne 14, le jour qu'il était immigré. En tant que sans-papiers, j'ai monté gratuit cette ligne 14. Donc, mais si je ne le dis pas aujourd'hui, il y a les gens qui ne savaient pas, il y a les sans-papiers qui sont l'expérience travailler sur le paroi ou sur le métro. Mais moi, j'ai resté sur les 2 ans sur la ligne 14 en tant que sans-papiers. Le jour qu'il était immigré, j'ai monté gratuit. Donc, je demande à mes amis sans papier, quand vous travaillez, il faut toujours acheter les cartes. Et si on n'a pas l'argent aussi, il ne faut pas frauder dans le métro. Parce que si tu es arrêté, les policiers, ils peuvent mentir sur toi. Et monsieur, il est arrêté, il a fait ça, il a fait ça. Moi, le jour que j'étais arrêté avec un contrat de travail 6 mois. J'ai un chèque de 2200 francs. À l'époque, c'était le franc. Parce qu'à l'époque, je travaillais dans le boîte intérim. Le policier m'avait demandé, vous savez, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est ma fiche de paye. Vous voyez mon contrat de travail, 6 mois. J'étais en contrat de travail 6 mois, donc je n'ai pas un voyou. Moi, je suis un travailleur. Donc, j'ai donné mon vrai nom. Donc, j'ai resté 2 jours de garde à vue. Et dimanche, il m'a relâché. J'ai dit, si vous voulez me voir lundi, il faut aller sur la ligne 14, Bibliothèque nationale. J'ai travaillé là-dedans. Donc, moi, je n'ai pas quelqu'un qui est cassé ici en France. J'ai mon logement, j'ai payé mon loyer, j'ai mon électricité, j'ai payé mes impôts, donc je n'ai pas quelqu'un qui est cassé ici. Donc si vous voulez me voir, il faut aller sur la ligne 14, je travaille là-bas lundi matin. Voilà, merci.
Mais comme, s'il te plaît, la garde à vue, tu peux nous expliquer comment elle s'est passée là?
La garde à vue, donc il y a, comme il dit Soussoko, il y a un avocat d'office qui est venu me voir, et Moussé, vous êtes rentré depuis tant ici en France. J'ai dit, moi j'ai rentré en 1993. Depuis 1993 jusqu'à maintenant, j'ai travaillé, donc je n'ai pas arrêté. J'ai tous mes fiches de paie, j'ai tout mon prof, j'ai donné mon vrai nom. Ils sont tapés sur l'ordinateur, ils ont trouvé chaque année, j'ai payé les impôts, tout ça c'est marqué sur l'ordinateur. Donc j'ai dit, moi je ne suis pas un voyou, je suis un travailleur, je suis venu ici pour travailler, je ne suis pas venu pour voler. Donc voilà, le résultat il est là, voilà. Le sec qui était ici, ce n'est pas un sec volé, c'est avec mon fiche de paie, donc voilà. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai arrêté avec une fausse carte, hein. Mais comme je travaille avec les fiches de paye de contrat, donc j'étais relâché dimanche, lundi c'est parti mon boulot. J'ai dit, si vous voulez me voir, je viens à la Bibliothèque nationale, je suis là-bas. Voilà, merci.
Voilà, un témoignage enregistré le 20 novembre. Le 20 novembre, donc Michel, qui est avec nous ce soir de la CIMAD, tu étais présente et tu donnais un certain nombre de conseils aux sans-papiers pour éviter de se faire interpeller, pour éviter de se retrouver dans des centres de rétention et cet engrenage vers l'expulsion.
Des conseils pour éviter de se... Non, il n'y en a pas vraiment. C'est vrai que quelquefois, Ce qu'on conseille avec mes collègues, c'est qu'il y a des endroits où on demande à la personne qui n'a pas de papier d'éviter de se rendre. Des endroits comme Château Rouge, Châtelet, Barbès, c'est des endroits qu'il est préférable d'éviter quand on est sans papier, même si on sait que c'est là-bas qu'on va trouver tout ce dont on a besoin. On conseille aussi d'éviter de marcher sans ticket de métro. Des choses anodines, enfin des choses qui sont interdites comme fumer dans le métro, une personne française n'aurait pas de problème par rapport à ça, mais un sans-papier risque de se voir reconduire parce qu'il a fumé dans un métro. Ce ne sera pas seulement une simple amende, ce sera aussi de se retrouver en centre de rétention. Chose qu'ils ne comprennent pas, c'est vrai que c'est complètement disproportionné par rapport à la faute qui a été commise. Traverser en dehors des clous aussi, on a vu.
Alors on va revenir sur les centres de rétention, sur le droit qui s'applique pour les personnes retenues dans les centres de rétention. Vous voulez parler un petit peu des avocats et des avocats commis d'office, comment ça se passe? Est-ce que les avocats qui sont commis d'office, donc payés par le système, par l'État, quoi, pour porter assistance à ces gens-là, quel travail ils fournissent, quelles sont les conditions, est-ce qu'ils ont le temps de faire quelque chose?
Donc déjà, je souhaite faire taire une certaine rumeur qui dit souvent que les avocats commis d'office et les avocats qui sont papiers sont incompétents, quelquefois ils sont plus compétents que les avocats que les retenus ont payé. Donc les avocats sont, en fait, tout retenu a un droit à un avocat, ça c'est, ils en ont droit pendant leur garde à vue, et une fois qu'ils arrivent au centre de rétention, ils peuvent demander à avoir un avocat à la CIMAD qui peut dépêcher un avocat qui viendra faire la permanence dans les lieux de rétention. Lors de leur comparution devant le JLD, c'est-à-dire à l'audience du 35 bis, JLD égale juge de la liberté de la détention, ou devant le juge administratif, ils ont aussi droit à un avocat commis d'office. Donc, ces avocats, effectivement, ils travaillent comme des avocats de permanence. Ils ont un temps qu'on peut qualifier de suffisant. Donc, c'est vrai qu'ils ont très peu de temps pour travailler. Mais généralement, quand ils font les permanences, ils travaillent quand même dans... Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est clair que ce n'est pas un travail de cabinet où ils préparent pendant 2 jours les dossiers. Quelquefois, ils arrivent le matin même, ils ont le nom des retenus et ils peuvent éplucher les dossiers pendant 1 heure avant l'audience et continuer pendant l'audience. Mais ce n'est pas pour autant que le travail est bâclé et mal fait.
Enfin, moi, il m'est arrivé quand même d'aller assister à des audiences au 35 bis où il y avait des avocats commis d'office. Alors je dis effectivement pas tous, mais il y en a certains qui, enfin on se demandait s'ils étaient procureurs ou avocats, quoi. Je veux dire, qui avaient des attitudes absolument déplorables, qui conseillaient à leurs clients, c'est mieux que vous rentriez et tout, enfin des choses assez graves.
Un avocat est avant tout une personne. C'est complètement c'est un cliché ce que je dis. Mais bon, maintenant, il faut voir que l'avocat commis d'office n'est pas forcément compétent en droit des étrangers. Il a forcément ses opinions. Donc, c'est pas parce qu'il est avocat commis d'office qu'il s'y connaît en droit des étrangers. C'est vrai, quelquefois, c'est lamentable ce qu'on peut voir écrit et ce qu'on peut voir dire devant une audience du 35 bis. Maintenant, les personnes qui donnent des mauvais conseils, je peux rien dire parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand les avocats sont censés être de permanence, c'est généralement volontaire, c'est eux qui demandent à être de permanence. Si maintenant ils sont pas bons, c'est clair qu'il faudra un contrôle de ce côté-là. Mais là, c'est à l'ordre des avocats de voir. Nous, à la CIMAD, on peut malheureusement pas faire grand-chose. La seule chose qu'on puisse conseiller à la personne ou retenu lorsqu'il revient nous voir ou lorsqu'il ne comprend pas, c'est de faire appel pour que le juge puisse rejuger le cas de cette personne s'il a été bien conseillé.
Alors à cette même réunion, tu parlais, on va continuer à parler des avocats, parce que tu parlais d'un certain nombre de dérives, pratiques. De pratiques d'avocats qui sont beaucoup d'argent sur le dos des sans-papiers sans nécessairement
travailler. Oui, malheureusement, c'est une chose qu'on voit, on exploite la misère, quoi. C'est très très facile pour un avocat d'exploiter la misère. Ce que je donne souvent comme conseil, c'est que... déjà, de faire très attention parce que les personnes qui sont généralement en situation irrégulière ont trop tendance à penser que parce qu'ils ont un avocat, parce que l'avocat va faire quelque chose, ça leur donne plus de chances. Et les avocats, de l'autre côté, n'ont pas l'honnêteté de dire à certaines personnes, je ne peux rien faire légalement, et on ne peut pas faire grand-chose pour vous. Mais c'est très bon parce que ça leur donne de l'argent. Donc, on a vu des avocats que les retenus ou les familles de retenus ont payé des sommes assez faramineuses qui ne se sont pas rendus aux audiences, qui ont fait des fautes magistrales, qui leur ont donné de mauvais conseils. Pour revenir tout à l'heure à la procédure dont je vous parlais, le retenu a, par exemple, la possibilité de faire ce qu'on appelle une assignation à résidence devant le juge de la liberté de la détention. C'est-à-dire que la personne qui est retenue, dès lors qu'elle est en possession de son passeport et qu'elle a une personne qui peut se porter garante pour elle, peut être libérée par le juge de la liberté de la détention. Cette liberté ne veut pas dire qu'il sera en règle. C'est seulement que le juge de la liberté de la détention lui fait assez confiance pour le libérer afin que celui-ci quitte le territoire dans les 15 jours. Donc ça se fait que devant le juge de la liberté de la détention. Et on a vu des avocats nous appeler ou faire dire aux retenus de nous dire, de demander une assignation à résidence devant le tribunal administratif et se faire payer pour ça, pour une chose qui légalement ne peut pas du tout être faite, quoi. Ça, on l'a vu. Donc, bon, effectivement, il y a aussi un conseil que je donne souvent, enfin, que j'ai donné justement ce fameux samedi, c'est les avocats qui demandent à être rémunérés en liquide ces sommes faramineuses et qui, en échange, ne donnent même pas de notes d'honoraires ou de factures. C'est complètement contre la déontologie de l'avocat. Donc, ne pas accepter ça.
Et quand tu parles de sommes faramineuses, on a entendu parler de quelque chose qui peut aller jusqu'à 3 ou 4 000 euros.
5 000 euros. On a vu du 5 000 euros pour des avocats qui ne se déplacent pas et qui nous écrivent même des petites notes à la CIMAT pour qu'on fasse leur boulot. Ça, généralement, c'est entre 2 000 et 5 000 euros qu'ils empochent comme ça, en liquide, donc sans taxes, pour lesquels ils ne font rien. Mais bon, je précise que tous les avocats ne font pas ça. Mais il y en a pas mal. C'est une pratique qui existe très souvent, qui existe malheureusement. C'est une pratique qui existe malheureusement. Et on encourage les retenus à demander une facture, si possible, ou une note d'honoraire. Enfin, surtout à demander une facture.
Et l'ordre des avocats, que fait-il par rapport à ces pratiques?
On peut justement faire une réclamation devant l'ordre des avocats qui a compétence exclusive pour régler ce type de litige. Et j'encourage les personnes qui ne sont pas satisfaites par les prestations de leur avocat. Quand je dis pas satisfaites, je ne dis pas qu'effectivement l'avocat a peut-être eu des diligences, a peut-être fait des choses et la personne n'a pas obtenu les documents, n'a pas obtenu satisfaction. Ça, c'est une chose. Moi, je parle vraiment pour les avocats qui devaient venir à des audiences ou qui promettent monts et merveilles et qui ne se déplacent jamais. Là, effectivement, il ne faut pas avoir peur d'écrire à l'ordre et de faire une réclamation auprès de l'ordre.
Mais les réclamations, elles aboutissent parce que l'ordre, il a quand même pour fonction de défendre une corporation avant tout, quoi. Donc,
Non, l'ordre a pour fonction de défendre de faire respecter la déontologie.
Mais dans la pratique.
Non, dans la pratique, ça aboutit. Mais en fait, dans la pratique, surtout ce qui se passe, c'est que les personnes n'osent pas le faire ou ne le savent pas. Très peu de personnes. Je ne parle pas seulement en droit des étrangers, mais même pour un divorce, savent qu'ils peuvent faire des réclamations contre leur avocat.
Alors, la CIMAD qui intervient dans les centres de rétention, vous êtes les seuls, si j'ai
non,
bien...
Non, on n'est pas les seuls.
Il y a une autre structure qui...
Il y a l'OMI qui intervient aussi dans les centres de rétention.
Enfin,
mais
l'OMI, c'est l'État.
Oui, mais elle a un rôle plus social. C'est-à-dire, par exemple, que le retenu, il ne peut pas récupérer ses bagages. Ce n'est pas la CIMAD qui va y aller. Ce sera l'OMI qui le fera.
Enfin, l'OMI, bon, c'est l'Office des Migrations Internationales. Enfin, oui. C'est quand même... ça t'engage pas, mais c'est quand même un petit peu... c'est un des bras armés de la répression anti-immigrée. C'est pas spécialement des progressistes. Et on a vu personne chez eux râler dans l'aggravation des lois anti-immigrées successives.
Moi, je me prononcerai pas là-dessus. Moi, je ne parle vraiment que par rapport à mes collègues de l'OMI avec lesquels je travaille. Donc, mais à part ça, non. Il y a la CIMAD, si vous parlez d'un point de vue juridique, et il y a les médecins, parce qu'ils ont droit à un médecin, et dans les centres de rétention, il y a effectivement une infirmerie.
Puisque, enfin, pour préciser, si je me souviens bien, la CIMAD répond à une sorte d'appel d'offres national pour être présent dans l'ensemble des centres de rétention sur le territoire national. Et voilà, mais à partir de ce moment-là, il n'y a plus que la CIMAD qui intervient. Alors, moi, ce que je me demande, c'est de quels moyens vous disposez. Là, tu nous parles sur Paris d'un nombre de si on prend que sur Paris, du nombre de centres de rétention et de mini-centres, de cellules, de locaux de rétention et tout, vous êtes combien pour venir en aide et pour tenter de faire appliquer un petit peu de droit pour ces gens-là?
combien d'intervenants dans les centres de rétention?
Oui.
Sur Paris, actuellement, on est 5. On est 5. Et il y a le local de Choisy-le-Roi, il y a une personne. Donc on est 6. Et de quels moyens on dispose? Je pense que c'est les moyens étatiques.
Ah oui, non, ça vous a non, moi je peux dire. C'est là c'est l'État qui donne une enveloppe annuelle là-dessus. Je parlais des moyens humains qui sont donc très très limités, quoi.
Oui.
On est dans une situation où c'est très complexe pour le droit, de gens très démunis qui en plus ont parfois du mal à manier la langue et en plus encore plus à manier le droit et à comprendre la situation qui leur est faite. Et l'État se dédouane à peu de frais puisque la CIMADE intervient à la hauteur de l'enveloppe qui lui est donnée.
Effectivement. Donc c'est vrai que d'un point de vue humain, ce serait bien qu'on soit un peu plus nombreux parce que les centres ils sont de plus en plus peuplés, malheureusement. Mais bon, là, c'est les dirigeants de la CIMADE, c'est pas moi.
Alors moi, il y avait un... Je passe complètement du coq à l'âne, mais les fois où j'étais allé assister à d'autres témoignages que j'ai pu lire sur les centres de rétention, on voyait toujours des juges qui s'improvisaient un peu géopoliticiens en disant « Oui, mais vous pouvez rentrer chez vous, il n'y a plus de conflit, regardez, je sais pas, parce qu'il a dû lire Le Monde la veille. Non, vous pouvez pas invoquer le fait que votre pays est en guerre pour demander l'asile ou pour... Cette situation, c'est quelque chose... plus généralement, toi qui as un regard plus large, tu vois la même chose, tu vois un petit peu ce...
Chez les juges, c'est vrai qu'on a on a différents juges. Il y a des juges qui sont plus sympathiques que d'autres. Il y a des juges qui sont. Mais on en revient pareil pour l'avocat. Je veux dire, ce qui est super embêtant pour nous à la CIMADE quelquefois, c'est qu'on a l'impression d'avoir aucun pouvoir face à ces instances. Si la personne s'ingénue géopoliticien salaud, enfin qui nous fait des jugements de Salomon, on peut pas faire grand chose. On peut essayer d'attaquer en justice et on agit en centre de rétention, on agit surtout par rapport au droit.
Enfin, moi, je voulais dire ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pouvoir complètement discrétionnaire pour les juges en charge de ces questions-là, qui repose sur rien, quoi. Comment décider qu'un pays est en paix ou pas? Comment décider que la personne risque ou pas? Comme ça, en 3 minutes, ils prennent une décision de renvoyer quelqu'un dans son pays.
Mais vous parlez quel juge?
Ah ben les juges au 35 bis, les juges au 35 bis ou alors les juges.
Moi, je rappelle ce que le juge au 35 bis, effectivement, s'il parle comme ça, il doit faire de l'esbrouf. Ce juge a seulement la compétence de décider si oui ou non cette personne reste en rétention. Elle n'a aucune compétence pour décider si oui ou non. Il ne juge pas l'acte qui a été pris. C'est le juge administratif qui juge cet acte. Donc maintenant, le juge au 35 bis qui dit que oui ou non, oui, il y a la guerre, oui. Je veux dire, il parle par rapport à son état d'esprit. Il parle par rapport à ses convictions, peut-être parce qu'il avait envie d'en parler. Mais de toute façon, j'ai envie de dire que c'est pratiquement des paroles en l'air, c'est enfoncer les portes ouvertes, parce que ce juge-là n'a pas la compétence de décider si oui ou non la personne est renvoyée. La seule chose qu'il puisse faire, c'est, comme je l'explique souvent aux retenus, c'est puis-je avoir assez confiance en vous pour... est-ce que je vous maintiens enfermé et c'est l'État qui s'occupe de votre conduite à la frontière ou je vous fais assez confiance pour sortir et vous-même quitter le territoire? Donc les juges qui disent ça, bon ben ils le disent, mais bon, voilà.
Car une nouvelle année commence, mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y a que les corps qui évoluent, la mentalité est la même, tous des tocards, tous des focus. Ils sont pas lourds en février, à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui pignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins nourris en assaut, pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque, pour lui apprendre à se révolter, il crie, pleure, il s'indigne de cet immonde mise à mort. et couvrir d'un fil que le printemps se dévore bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions des villes, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coule en fugée noire, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens sur toutes ces boutons, effrayés par la liberté, sans en voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin un débarquement de Normandie. Ils pensent aux braves soldats américains qui ont dû se faire très loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français criaient vite Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens moulins. Être des sous-signes de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des consuls centraux, me dites pas qu'il est portugais. Faites au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feu d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté. Après une longue année d'usine, ils crient vive les congés payés. Ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur s'en mêle, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène de Santiago jusqu'à Paris. Mettez sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des consuls centraux, il est français, ce j'en suis sûr. En octobre, le raisin ferme un temps tonneau. Ils sont très fiers de leur vignoble, leur Côte du Rhône et leur Bordeaux. Ils exploitent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à cette année. En novembre, au salon d'auto, ils vont admirer par milliers le dernier modèle de chez Peugeot qui pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Puis supprimé, c'est le tuer, c'est une drogue à coutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffée, les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindons marrons. Des soucis de l'Hexagone, on peut pas dire que ça soit vendant, mais si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions.
Voilà un extrait du dernier album des Têtes Raides. On est toujours sur l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Et puis on reçoit Michel, qui est une militante et une avocate de la CIMAD. Guillaume.
Oui, ben on va peut-être continuer par rapport à ce qu'on disait juste avant la pause, c'est-à-dire essayer de voir un peu, de faire le tour des recours possibles et essayer de comprendre un peu comment ça se passe pour aider ces fameuses personnes arrêtées en situation irrégulière. Donc il y a le problème des ambassades, le lien avec les ambassades pour les avocats.
Non, les avocats n'ont pas de lien avec les ambassades, c'est les préfectures, enfin c'est le retenu. Donc en fait, comme je l'expliquais au départ par rapport aux fameux 15 jours qui leur sont donnés par le juge de la liberté et de la détention, ces 15 jours sont déterminés déjà pour réacheminer la personne vers le pays de destination qui a été choisi. Donc je rappelle, parce que c'est vrai que ça n'a pas été précisé dès le départ, que les personnes ne sont pas forcément renvoyées vers leur pays d'origine. Il y a maintenant ce qu'on appelle la Convention de Dublin, qui fait que des personnes peuvent être renvoyées vers le pays dans lequel ils habitent. Donc je vous rappellerai que la loi Schengen fait que un résident italien peut venir en France, mais il ne doit pas excéder la durée de 3 mois. Donc il y a souvent des résidents belges ou italiens qui viennent et qui excèdent les 3 mois. Donc une personne qui se retrouve en situation irrégulière en France peut très bien être en situation régulière dans un pays membre de Schengen. Donc cette personne qui est interpellée et qui sera reconduite peut être remise aux autorités du pays Schengen. Donc une personne, par exemple, de nationalité sénégalaise, mais qui a un titre de séjour en Espagne, peut très bien, même en étant en situation irrégulière en France, être remis aux autorités espagnoles et non aux autorités sénégalaises. Donc, quand je vous dis...
Ce que prévoit particulièrement la loi Schengen, c'est surtout que c'est dans le pays dans lequel un étranger sans titre de séjour arrive en premier sur le territoire de l'espace Schengen. Par exemple, s'il passe par... Alors, c'est Dublin qui régit l'espace Schengen. C'est-à-dire que si, mettons, un Algérien sans papier arrive par l'Espagne en France, il sera expulsé de la France vers l'Espagne, puisque c'est à l'Espagne de gérer le problème, puisque c'est chez eux qu'il est passé en premier.
Oui, mais là, je reviens, c'est pas Schengen, c'est Dublin.
Ça, c'est Dublin, d'accord.
Voilà, l'accord Schengen, c'est vraiment... Je suis désolée, quelquefois, je passe par des raccourcis rapides. C'est quelque part la communauté européenne faite aux résidents, pas aux citoyens d'un pays. C'est-à-dire qu'ils ont la libre circulation, mais en tant que résidents d'un pays et non en tant que citoyens. Et ils ne peuvent demeurer dans le pays dans lequel ils se rendent. Ils ne peuvent pas demeurer, excusez-moi, plus de 3 mois. Donc, effectivement, cet accord de Dublin pour cette personne... Donc, par exemple, on prend un cas qui arrive souvent, les personnes qui arrivent par bateau... Parce qu'il est de plus en plus difficile, malheureusement, d'obtenir un visa pour X pays. Donc la personne, elle trouve le moyen d'arriver... ou elle arrive par bateau par l'Espagne. Elle fait, par exemple, une demande d'asile. Ou elle a un tampon de l'Espagne. Après, elle vient pour s'établir en France. Avant de le reconduire vers son pays d'origine, on demandera sa réadmission en Espagne, si c'est le premier pays dans lequel il est arrivé, afin que l'Espagne... Enfin, je veux dire, analyse toute sa situation. Mais l'Espagne doit accepter de recevoir l'étranger en question. Donc, pour revenir à la question que vous m'avez posée, comme il était dit tout à l'heure, pendant les 15 jours, lorsque l'étranger n'est pas en possession d'un passeport, les autorités administratives françaises, c'est-à-dire généralement la préfecture, doivent vérifier et établir sa nationalité et son identité. Donc là, se pose pendant ces 15 jours, en fait, les personnes qui sont retenues vont être présentées à diverses ambassades. Donc,
Ça se passe comment ?
Les présentations à l'ambassade, la personne, lorsqu'elle arrive en centre de rétention, elle indique un nom et une nationalité. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, s'il dit qu'il s'appelle XY et qu'il est de nationalité burkinabé, on le présentera à l'ambassade du Burkina Faso.
Donc ça signifie que tous les jours, il y a des fourgons qui partent des centres de rétention pour se rendre dans les différents quartiers.
Non, ils prennent quand même des rendez-vous. Non, la préfecture prend des rendez-vous, elle est organisée. Ils prennent des rendez-vous. Mais c'est vrai que les dérives de certains retenus ont entraîné que souvent la loi s'est adaptée à leurs petites pratiques. Donc, par exemple, les Maghrébins sont souvent, si la personne se dira de nationalité algérienne, mais sera présentée aux 3 consulats, sur Paris, du moins. Elle sera présentée aux 3 consulats.
Quel est l'intérêt pour un sans-papier de donner sa nationalité? Enfin, est-ce qu'il cache, s'il dit pas sa nationalité, comment l'État français fait pour déterminer de quel pays il vient et vers où on va le renvoyer, quoi?
Une personne, lorsqu'on vous arrête, on vous demande date de naissance, lieu de naissance.
Mais je peux ne pas le dire.
Généralement, ils le disent. Donc généralement, par la police, ils arrivent à le savoir. Mais même lorsqu'ils donnent une nationalité, la préfecture peut tout à fait les présenter à d'autres ambassades. C'est-à-dire qu'il peut très bien se dire, gabonais, on le présente à l'ambassade du Congo. Le seul désavantage, et ça c'est ce dont on parlait, c'est aussi des conseils que j'avais donnés lors de cette réunion aux personnes, c'est d'éviter ce qu'on appelle les alias. Parce que le seul désavantage, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont plus crédibles à force d'avoir donné des fausses identités et des fausses...
Jérémy, tu peux peut-être nous expliquer les alias.
Alors non, tu n'expliques pas. Moi, je voulais, parce que l'émission se va bientôt se terminer. Je voulais qu'on parle un petit peu des étrangers malades. On peut juste rappeler qu'on est le 1er décembre, qui est la journée mondiale de lutte contre le sida. Il y a eu un certain nombre d'actions dans d'ACT UP hier et aujourd'hui, entre autres, il y a les militants d'ACT UP qui viennent de passer 24 heures en rétention, enfin en détention plutôt là, puisqu'ils avaient fait une action sur l'Élysée. C'est un des grands thèmes de lutte d'ACT UP, c'est il faut que les étrangers malades soient sauvés, puisqu'il n'y a qu'en France qu'ils peuvent obtenir un traitement à la hauteur de la gravité de leur maladie. Alors, en quelques mots, qu'en est-il de ces étrangers malades? Ça peuple beaucoup les centres de rétention?
Il y en a. Il y en a. Maintenant, c'est vrai que là, de ce côté-là, la CIMAD, on a un rôle, mais c'est surtout le médecin qui a un rôle un peu en centre de rétention, qui a un rôle un peu plus prépondérant que le nôtre. Parce que c'est lui qui peut déterminer vraiment si... je dirais méchamment la réalité de la maladie, la gravité de la maladie. Bon, nous, on est juristes, généralement, on n'est pas médecins. Mais effectivement, il y en a, et comme je le dis depuis le début, il faut qu'il démontre sa maladie. Et à partir de là, on revient à quelque chose, c'est qu'il sera reconduit seulement quelque part si la maladie est grave, est très grave, et si le pays dans lequel il sera reconduit ne dispose pas des traitements nécessaires. Donc là, effectivement... dès lors qu'il y a un hôpital qui traite de la maladie X, est-ce que ça veut dire que cette personne sera effectivement soignée dans son pays? Quid?
Oui, c'est ça, parce que souvent la France, enfin les juges se contentent de dire, bah voilà, dans tel pays il y a un programme, pour, vous avez le SIDA, dans tel pays il y a un programme, mais donc vous pouvez rentrer chez vous, alors que le programme concerne quelques dizaines, parfois quelques centaines de personnes, et que c'est quasiment évident que
c'est clair qu'il faudra un changement dans la loi, parce que on ne peut pas dire, parce qu'effectivement il y a un hôpital qui traite de telle maladie, que le retenu qui va rentrer a les moyens suffisants pour se faire soigner par cette maladie. C'est un critère qui doit être pris en compte, mais qui n'est pas pris en compte, qui n'est pas prévu par la loi. Et les juges appliquent la loi. Donc ils ne verront pas... Le juge se demande vulgairement, est-ce que la maladie est grave? Est-ce qu'il encourt la mort? Est-ce qu'il y a des traitements suffisants dans son pays? Si les trois conditions sont remplies, c'est pas grave, on le reconduit.